Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin après quelques jours de repos. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre dans quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons ici au studio Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma. Elle est membre de la société civile, elle est militante des droits spécifiques des femmes, elle est également coach, écrivaine et coordonnatrice nationale de l'ONG OEMA, ASBES spécialisée dans les questions des gouvernances et des droits humains. Bonjour Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma.
Bonjour Monsieur Guimaté, bonjour à tous les auditeurs de la grande radio onusienne, Radio Okapi.
Merci Nikez Kibelbel Oka, il est journaliste et il est éditeur du journal Les Coulisses. Il vient de publier l'ouvrage intitulé Les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024. Bonjour Nikez Kibelbel Oka.
Bonjour Guy, bonjour Chantal et bonjour à Magloire, bonjour à tous les auditeurs de Radio Cap.
Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du Club de l'information africaine. Bonjour Louis Magloire Kemayou.
Bonjour Guy Maté.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi ou encore le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Nikez Kibelbel Oka. Il est journaliste et il est éditeur du journal Les Coulisses. Il vient de publier l'ouvrage intitulé Les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024. Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma, elle est membre de la société civile, elle est militante des droits spécifiques des femmes, elle est également coach, écrivaine et coordonnatrice nationale de l'ONG OEMA, ASBEL spécialisée dans les questions de gouvernance et des droits humains, et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du Club de l'information africaine. Au menu de cette émission, focus sur l'annulation de la tripartite de Luanda entre les présidents Félix Tshisekedi, Paul Kagame et João Lourenço. Les tueries des civils se poursuivent au Nord Kivu et en Ituri, 3 ans après le lancement des opérations conjointes par des CUPDF contre l'EDF. Et enfin, clôture des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre en RDC, bilan et défi majeur pour la réduction de ces violences. Mais nous allons commencer par commenter cette actualité relative à ces énièmes naufrages survenus sur le lac Maïndombe mardi 17 décembre. En effet, plus de 20 personnes sont mortes dans les naufrages d'une baleinière survenue sur le lac Maïndombe mardi 17 décembre entre le village Isongo et la ville d'Inongo dans la province de Maïndombe. Ces bilans provisoires avancés par les autorités gouvernementales est pour l'instant controversé. Le sénateur Anissé Babanga, élu d'Inongo, rapporte au moins 40 morts alors que le gouverneur de la province, c'est Lebon Nkosso Kevani, parle des 22 morts. Ce naufrage est survenu lorsque la baleinière en bois qui avait quitté le village Isongo pour la ville d'Inongo, avec à son bord plusieurs passagers et des marchandises, a chaviré à une trentaine de kilomètres de cette ville. Selon des sources locales, parmi les passagers se trouvaient des commerçants, mais aussi d'autres voyageurs, notamment des femmes et des enfants. Le sénateur Anissé Babanga évoque la surcharge et le mauvais état de la baleinière comme les causes éventuelles de cet accident. Nikes Kibelbel, tout a presque été dit au sujet de ces naufrages. Des solutions ont été proposées, des mesures ont été prises. Et qu'est-ce que, à votre avis, qu'est-ce qui doit encore être fait aujourd'hui pour que les Congolais ne meurent plus, tout simplement parce qu'ils veulent voyager par la voie lacustre ou fluviale?
Merci beaucoup. Le premier problème, c'est le problème des disciplines personnelles. Le problème des disciplines personnelles qui, directement, concerne le sens qu'on donne au risque que nous voulons prendre. Vous l'avez dit, les naufrages sur le lac Kivu, sur le lac Tanganyika, sur le lac Maïndombe, c'est presque chaque mois. Mais apparemment, les gens ne tirent pas des leçons qu'il faut. Donc, le problème des disciplines personnelles, lorsque le bateau ou la barge est surchargée, il faut tenir compte de tous les risques qui peuvent venir, mais aussi le problème des responsables des bateaux ou des barges. Ils doivent connaître le tonnage et respecter le tonnage pour éviter que des drames puissent se commettre et on commence à discuter sur le nombre de morts ou de disparus. Parce que généralement, personne ne sait combien les gens montent dans un bus, combien les gens montent dans un bateau, combien les gens montent dans ce qu'on a appelé le foula-foula. Donc souvent, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de discipline et il n'y a pas d'éthique pour les propriétaires des bateaux.
Merci. On vient d'apprendre qu'il y a encore un nouveau naufrage sur le fleuve Congo au niveau de l'Équateur et qui aurait fait une centaine de morts. Maman Chantal Faïda Moulenga Biuma, au vu de tout cela, est-ce qu'on peut dire qu'on a pu tirer les leçons du naufrage en octobre dernier sur le lac Kivu près du port de Kituku à Goma?
Je vais d'abord exprimer ma profonde compassion aux familles éplorées. Nous sommes à l'aube de festivités de fin d'année et avoir ce genre d'informations, c'est une grande tristesse, une douleur profonde que ces familles puissent être encouragées et soutenues par nos prières. Je m'en vais dire au gouvernement de prendre sa responsabilité conformément à l'article 16 de notre constitution qui consacre la sacralité de la vie et de garantir au peuple congolais et beaucoup plus aux entrepreneurs qui font beaucoup de navettes entre plusieurs villes de pouvoir bien faire leur exercer leur activité. Et donc la récurrence de ces drames fait réfléchir au niveau de la défaillance des contrôles techniques. Est-ce qu'on les fait de manière professionnelle? Est-ce qu'il n'y a pas des actes de corruption? Parce que généralement les personnels de port qui sont commis à ce genre d'activités font leur travail. Mais il y a toujours des brebis galeuses qui tentent de corrompre les services pour pouvoir passer inaperçus, surtout quand il y a excédent de charges, quand il y a défaillance au niveau du contrôle technique. Et donc, il faut combattre la corruption. Il faudrait que l'État puisse reprendre ses responsabilités au niveau de la gouvernance pour sécuriser la personne humaine. Et beaucoup plus en tant que peuple, nous devons aussi prendre des dispositions, c'est-à-dire se procurer par exemple des bouées de sauvetage, des gilets de sauvetage aujourd'hui, et ça se vend un peu partout. Quand on sait qu'on voyage dans des embarcations qui ne sont pas sécurisées, on peut au moins se prémunir en prenant des dispositions pour voir le nombre de passagers, la quantité et même avoir son gilet de sauvetage. Et au niveau du gouvernement encore, j'aimerais proposer de pouvoir recourir au balisage parce que ça ne se fait pas surtout sur le fleuve Congo. Il y a des tonnes de sable et les embarcations ont du mal à naviguer. Et donc la sécurité sur les voies fluviales et lacustres n'est pas encore garantie et c'est de la responsabilité du gouvernement. La responsabilité elle est mineure du côté des passagers parce que tout repose sur la politique de transport dans notre pays, que ce soit les voies terrestres, que ce soit les voies aériennes. Vous savez, aujourd'hui, par voie aérienne, c'est aussi difficile de voyager. Les gens prennent des risques. Et donc, du côté de passagers, on peut comprendre qu'il y ait pléthore, mais du côté du fret, s'il y a un tonnage qui n'est pas acceptable, là vraiment ce sont les passagers qui sont exposés, que ce soit par voie terrestre ou aérienne. Et donc on a besoin vraiment qu'il y ait peut-être un état des lieux de la politique de transport dans notre pays pour dégager des pistes de solutions et donc associer la communauté, associer la population pour pouvoir dégager des alternatives sécurisantes pour les secteurs de transport.
Merci Louis Magloire Kemayou. Que vous inspire cette actualité?
la première chose que cela suscite en moi, c'est de l'émotion en direction à la fois des victimes et de leurs familles. Ensuite, l'autre commentaire, c'est de dire que, effectivement, nous avons de gros problèmes d'infrastructures sur le continent, notamment à RDC, et on devrait prendre ce problème au sérieux. Et la responsabilité est celle citoyenne des usagers, mais elle est également celle du gouvernement, pour s'assurer que, quand il y a des cas comme cela de noyade, que les bateaux qui vont prendre la route soient suffisamment bien équipés pour parer à ce genre de situation. Et si jamais ce n'était pas suffisant, qu'il y ait également des gardes-côtes qui, par moment, pourraient aller sauver les victimes avant qu'elles ne se noient, et cela pourrait au moins diminuer le nombre de victimes qui meurent par noyade.
Merci. On prend une petite pause avec Jimmy Deboni M. On revient juste après. Jimmy Deboni M. On revient à l'actualité de cette semaine. La tripartite est prévue le dimanche 15 décembre à Luanda entre le président Félix Tshisekedi de la RDC, Paul Kagame du Rwanda et João Lourenço d'Angola a été annulée. Selon un communiqué publié par la présidence congolaise, cette annulation est due au refus de la délégation rwandaise de participer à cette rencontre et qui devait aborder la question du conflit en cours dans l'est de la RDC. La RDC a pris note donc de la non-tenue de cette tripartite. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de la présidence congolaise publié sur son compte X. Au cours de la réunion ministérielle du samedi 14 décembre, le Rwanda a présenté un nouveau préalable à la signature du dit accord, à savoir la tenue d'un dialogue direct entre la RDC et le groupe terroriste M23. Pour Kinshasa, ce préalable constitue un blocage délibéré et une entrave majeure aux efforts fournis pour faire aboutir le processus de Luanda initié par l'Union africaine et soutenu par le Conseil de sécurité des Nations États-Unis depuis juillet 2022 poursuit les communiqués. En introduisant cette dernière condition de dernière minute, contraire aux discussions précédentes, selon le document, le Rwanda démontre une fois de plus son soutien inconditionnel au M23, un groupe terroriste impliqué dans des violations graves des droits humains et dans des activités déstabilisatrices en RDC. Louis Magloire Kemayou, vous êtes journaliste camerounais, vous êtes écrivain et président du Club de l'information africaine. Vous avez souhaité nous parler de cette actualité. On vous écoute.
Oui, je crois que la situation à l'est de la RDC atteint un niveau qui rend aujourd'hui obligatoire la prise en charge sérieuse du dossier. Parce que au bout d'une trentaine d'années, on ne peut pas dire que tout va dépendre des acteurs régionaux uniquement. On ne peut pas non plus rester dans un tête-à-tête avec les voisins, qu'ils soient immédiats ou lointains, lointains pour ce qui concerne l'Angola ou proches comme le Rwanda. Je crois qu'il faut aujourd'hui trouver véritablement des recettes. L'on en arrive à penser que, au-delà du conflit originel qui continue malheureusement, il y a également aujourd'hui d'autres conflits qui viennent s'y ajouter et qui font que déjà la situation intérieure n'est pas très stable, mais la situation avec les voisins sur le plan diplomatique se dégrade également au regard de cela. Et donc comment on arrête la saignée? Les Nations Unies ont essayé, la mission aujourd'hui est dans une position où on ne sait pas si elle va poursuivre son action ou pas. Les voisins, on ne sait pas quels sont les bons. Finalement, au niveau même de la RDC, les populations semblent ne pas savoir exactement quelle est la bonne recette. Est-ce que c'est le processus de Nairobi? Est-ce que c'est le dialogue avec le Rwanda directement? Est-ce que c'est le dialogue avec l'Angola? Je pense que tout cela mérite d'être pris au sérieux par les politiciens et ne pas être simplement instrumentalisé comme on en a l'impression aujourd'hui. Le Rwanda donne une leçon peut-être en disant, en s'ingérant dans les affaires pour demander qu'il y ait d'abord un dialogue entre les Congolais avant un sommet à l'extérieur, mais quelque part il y a quand même un peu de bon sens dans l'idée que, moi je crois qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi en arrivant avait fait de ce dossier une priorité absolue. Si au bout d'un mandat et au cours du second qu'il est en train de commencer, l'on en est encore à chercher les repères pour résoudre le problème, je pense que c'est assez grave et que s'il fallait même convoquer une conférence nationale au niveau national, au niveau congolais, pour régler le problème, ce ne serait pas en trop.
Oui, mais quel est ce problème qui serait réglé par ce que vous proposez, cette éventuelle conférence au niveau national, lorsqu'on sait que le rapport des forces sous le terrain semble être depuis plusieurs mois en faveur du Rwanda?
En faveur du Rwanda ou des rebelles, je ne sais pas précisément qui a...
Bon, quand on dit du Rwanda, c'est en faveur du M23 qui est soutenu officiellement par le Rwanda.
D'accord. Considérons aujourd'hui que ça fait 30 ans qu'on est en train d'essayer de régler le problème. La dimension qui a primé dans les réflexions et dans l'action a été la dimension militaire jusqu'à présent. Et moi, je pense que la dimension militaire, c'est la dimension de l'extrême. Quand on n'a pas pu, sur le plan social d'abord, au niveau de la politique intérieure, quand on n'a pas pu trouver de solution. Ensuite, quand on n'a pas pu, sur le plan diplomatique, trouver une. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'impression que les dirigeants politiques ont donnée, c'est qu'il n'y avait qu'une seule façon de régler ce problème, c'est la solution militaire. Mais si cette solution ne marche pas, considérons même que c'est la bonne, si elle ne marche pas, on peut changer de fusil d'épaule, on devrait essayer d'autres méthodes. Et je pense qu'on n'a pas suffisamment exploré ces méthodes-là qui devraient consister également à voir sur le plan interne. Malgré le fait que le Rwanda soit accusé d'être le soutien principal du M23, s'il n'y a pas au niveau national, je veux dire au sein de la population congolaise, des gens qui soutiennent cette démarche-là, ça ne prendra pas. Il faut une cinquième colonne à l'intérieur pour que l'ingérence du Rwanda ou d'autres pays puisse marcher. Et malheureusement, cette cinquième colonne, elle existe et elle est faite de Congolais.
Merci, Nikes Kibelbel. Vous êtes journaliste et vous êtes éditeur du journal Le Coulisse. Et vous venez de publier l'ouvrage intitulé « Les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024 ». Dans l'édition de votre journal Les Coulisses du début de cette semaine, vous avez titré « Kinshasa, pieds et mains liés dans les pièges du Rwanda ». Pour vous, qu'est-ce qui constitue les pièges ici? C'est le fait qu'on a instauré les mécanismes de Luanda ou c'est le fait que le Rwanda refuse de participer à cette tripartite?
Oui, merci beaucoup. Vous faites allusion à mon livre. Le livre que nous avons publié montre effectivement que depuis 1996, c'est-à-dire 1996, le Rwanda est sur le sol congolais en instrumentalisant des rébellions. Nous avons l'AFDEL, le RC2, le CNDP, M23, M23-2. Et il y a eu autant d'opérations conjointes, autant de dialogues. Louis Magloire le dit, peut-être il ne le sait pas. Toutes les 30 années ont été échelonnées ou marquées par des dialogues. Mais le vrai problème, le piège dont nous parlons, c'est quoi? C'est que lorsque, d'abord, le Rwanda est sur le territoire congolais, mais le Rwanda refuse ou conditionne sa sortie d'abord par une négociation directe entre le gouvernement congolais et le rebelle du M23. Ça, c'est une chose. Mais si on inverse le problème, on demande au Rwanda de négocier avec le FDLR, le Rwanda refuse catégoriquement. Au niveau de Luanda, le Rwanda est arrivé effectivement à glisser par étapes, par échelon, à glisser des problèmes. Aujourd'hui, il pose le problème du M23. Demain, sûrement, il posera le problème de l'AFC. Parce que quand il fait allusion à M23, il ne parle pas de l'AFC de Corné Nanga. Alors, le piège, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'avancer et qu'on applique la feuille de route de Luanda, en bref, la feuille de route de Luanda dit quoi? Il y a un pré-cantonnement à Rumangabo où les Congolais du M23 seront triés et les étrangers rentreront dans leur pays. Et ils seront envoyés, les Congolais seront envoyés à Kindu. Or, Rumangabo aujourd'hui est sous contrôle du Rwanda. C'est là effectivement qu'on revient au terme du retrait des troupes rwandaises de la RDC. Or, le Rwanda dit qu'il ne peut pas se retirer tant qu'on n'a pas encore résolu le problème de M23. Alors, c'est ça effectivement le piège. Parce que, au départ, c'était le problème des FDLR et des réfugiés tous les Congolais qui sont au Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda présente d'abord le problème de M23, il laisse le problème des FDLR après. Alors, si la RDC ne fait pas attention, elle va tomber dans le piège du Rwanda. Et je rappelle aussi que depuis 1990, où le FPR a été connu sur le plan international, le FPR négocie toujours avec l'armée derrière le dos. Vous pouvez rappeler les accords d'Arusha qui ont fini par les génocides. Vous pouvez rappeler les accords de Lusaka avec le RCD, avec le gouvernement congolais. Ça aboutit à une autre guerre, à une autre rébellion, ainsi de suite. Donc, le vrai problème, c'est qu'il faut que le Rwanda ouvre un dialogue franc entre Rwandais. Et vous verrez que les FDLR, qui sont des Rwandais, retourneront au Rwanda et le Congo peut résoudre ses problèmes avec ses groupes rebelles.
Nikes Kibelbel, pourquoi l'attitude de Paul Kagame semble surprendre les gens? Parce qu'on se rappelle que depuis plus de 20 ans, toutes ces rébellions, n'est-ce pas, qui déstabilisent la RDC à partir de l'Est, c'est des rébellions qui sont soutenues par le régime rwandais. Et que chaque fois qu'on tente, n'est-ce pas, de solutionner ces problèmes de manière pacifique, Kagame a toujours imposé des négociations entre les gouvernements congolais et ces différentes rébellions. Comme on sait que c'est le mode opératoire de Kagame, donc on est censé, n'est-ce pas, savoir qu'il finira par évoquer cette question-là. Et cela veut dire qu'on pouvait, il y avait possibilité d'anticiper ce qui s'est passé à Luanda.
Ben effectivement, c'est ce que nous regrettons. C'est-à-dire que en face, la délégation ou les délégations congolaises qui négocient avec le Rwanda ne prennent pas la mesure du problème. Et si je dis qu'ils vont comme en aventure, ça serait les injurier, mais le vrai problème, ils ne le prennent pas à bras le corps. Et c'est comme ça que nous sommes chaque fois surpris. Et imaginez un peu, les trois chefs d'État devaient se retrouver, le président Tshisekedi, le président Kagame et le président Lorenzo, pour signer. Et si jamais le Rwanda n'avait pas refusé de s'y rendre, ils allaient signer. Or, il n'y a pas que le piège du M23. dans le mécanisme, le nouveau mécanisme de vérification harmonisé, il a été dit que chaque parti puisse donner des agents de liaison pour la vérification de l'accord qu'on va signer. Selon le ministre, la ministre congolaise des Affaires étrangères, au 40e jour, le Rwanda n'avait pas encore envoyé sa délégation qui doit siéger au mécanisme de vérification. Et alors, comment on peut continuer à discuter avec le Rwanda qui refuse pratiquement et publiquement d'acter ce que tout le monde a fait ici à Goma, et je pense que c'était au mois d'octobre si je ne m'abuse. Donc, autant le Rwanda ne veut pas qu'il y ait une solution diplomatique, parce que la solution diplomatique doit aboutir à ce que les FDLR, dont les Hutus rwandais qui sont au Congo, retournent au Rwanda, et le Rwanda n'en veut pas. C'est comme ça, à chaque étape, il met le bâton dans les roues et tout essaie d'échouer.
Merci. Madame Chantal Faïda Moulenga Bjouma, vous êtes membre de la société civile et vous êtes militante des droits spécifiques des femmes. Vous êtes également coach, écrivaine et coordonnatrice nationale de l'ONG OEMA Asbest, spécialisée dans les questions des gouvernances et des droits humains. À votre avis, quel pourrait être le scénario ou les scénarios possibles si chaque parti, donc le Rwanda et la RDC, campe dans sa position, c'est-à-dire la RDC maintient son refus de négocier avec l'M23 et le Rwanda maintient sa logique, celle de conditionner sa participation à la tripartite aux négociations directes entre le gouvernement congolais et l'M23. Ça peut être quoi les scénarios possibles à votre avis?
Oui, je pense que la panacée à cette problématique serait la pression internationale au niveau du Rwanda, qui est un pays agresseur, qui convoite nos ressources naturelles. Ce n'est pas un secret. Et quand on dit pression internationale, on veut voir des sanctions fortes à l'endroit de ces pays agresseurs. Je salue la position du gouvernement congolais qui a intenté une action en justice contre Apple, qui a recours aux ressources naturelles, qui aujourd'hui, Walikale et Masisi, une partie beaucoup plus pour Masisi contrôlée par les rebelles des M23, et donc ces minéraux ne sont pas tracés. Et donc on aimerait qu'il y ait ces multinationales qui se sentent interpellées par le gouvernement congolais pour agir et stopper l'hémorragie, parce que ça fait plus de 30 ans des misères, des souffrances et des pertes en vies humaines. Il s'agit vraiment des âmes qui sont emportée par cette crise sécuritaire. Et donc, à part la pression, il faudrait passer à la démonstration de force. Parce que quand on entend les discours du gouvernement congolais, on parle de 4000 rebelles M23. Mais nous, en tant qu'RDC, nous avons plus de 120 000 hommes. Comment on peut être nargué pendant autant d'années par 4000 hommes, alors que nous avons l'équipement, nous avons la supériorité démographique, mais on ne parvient pas à avoir la solution à cette crise. Et donc, il faudrait vraiment que nous puissions prendre nos responsabilités pour que la diplomatie congolaise agisse au niveau international. Ensuite, au niveau interne, en équipant, et heureusement, il y a un changement au niveau de commandement des forces de sécurité et des forces terrestres. Et donc, on pense qu'avec ces mouvements des officiers, on aura une solution en vue. On aimerait aussi encourager la légitimité des initiatives de Luanda ou des initiatives diplomatiques entreprises par le gouvernement. Mon impression personnelle est que c'est l'affaire de la ministre des Affaires étrangères et de la présidence de la République. Je ne sens pas l'adhésion du Parlement. Je ne sens pas l'adhésion de la société civile, des chercheurs. J'ai salué les co-débatteurs qui sont en train de participer dans cette émission. Ils ont écrit, ils ont documenté des faits. Mais qui est là pour prendre en compte toutes ces recommandations? Ça ne doit pas être l'affaire du gouvernement, mais ça doit être l'affaire de parlementaires, de la société civile et des chercheurs. Donc on devrait aussi voir la ministre accompagnée des députés, des parlementaires congolais qui appuient la position du gouvernement, parce qu'ici il ne s'agit pas d'opposition aux majorités, mais il s'agit d'intérêt national, de la survie du pays, de la souveraineté nationale. Également, évaluer les accords précédents, parce qu'on peut avoir un autre accord entre la RDC et le Rwanda. Ça ne sera pas les premiers. Les accords précédents, qu'est-ce qu'on en a fait? Surtout du côté gouvernement. Je me rappelle des accords d'Addis Abeba de 2013. Il était stipulé noir sur blanc que les gouvernements devaient prendre en charge la protection des civils, parce qu'à l'époque, il y avait déjà des déplacés. Mais aujourd'hui, sur terrain, on ne voit quelle est la communauté internationale, c'est-à-dire plus les organismes internationaux. On ne sent pas un fonds ou un budget spécifique alloué à la prise en charge des personnes déplacées. Pour la ville de Goma, on parle de 2 millions d'habitants. On a enregistré des cas de pertes en vies humaines, des suites de famines. Où est le gouvernement?
Merci, chers auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. Lui s'appelait Séguin Mignon Maniata, ce célèbre batteur et auteur-compositeur de l'orchestre Wenge Musica BCBG qui vient de nous quitter. C'était jeudi 19 décembre en Inde, au cours d'un séjour d'hospitalisation à la suite d'un accident de circulation à Kinshasa. Et pour lui rendre hommage, on va écouter l'une de ses chansons intitulée Elokoya Pema et on revient juste après.
Merci, mythologie plus que Socrate. Oh, Mitterrand Champagne, Moana Mosala Yabana Selembao. Patou Kamamou, l'homme décroché pour mes diabolis.
Dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire sur les énièmes naufrages survenus récemment sur le lac Maïndombe et qui a causé la mort de plus de 20 personnes. Nous avons également analysé l'annulation de la tripartite de Luanda. Participe à cette émission, Nikes Kibelbel Oka, il est journaliste, il est éditeur du journal Le Coulisse. Il vient de publier l'ouvrage intitulé « Les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024 ». Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma, elle est membre de la société civile, elle est militante des droits spécifiques des femmes, elle est également coach, écrivaine, coordonnatrice nationale de l'ONG Ouema Asbel, spécialisée dans les questions de gouvernance et des droits humains. Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du Club de l'information africaine. Cinq civils ont été tués mardi 17 décembre lors d'une embuscade tendue par des présumés EDF à Mafifi, localité située sur la route nationale numéro 4, axe commanda Luna, dans la chefferie de Walenso Vonkutu, au sud du Rumu Anituri. Les victimes, dont un enfant de 2 ans, se rendaient à Manzobe à bord d'un véhicule de transport en commun en provenance de Komanda. La Convention pour le respect des droits humains, CRDH en sigle, demande aux forces conjointes d'intensifier les opérations de traque de ces rebelles dans cette zone. Nikes Kibelbel, vous avez opté pour ce sujet, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Les islamistes MTM, abusivement appelés ADEF, ils ont une mission, et ils le disent à haute voix, c'est de former un califat dans la région de Béni, et ils ont fait allégeance à l'État islamique depuis 2017, et avec les Al-Sunna au Mozambique, ils forment la province Afrique centrale de l'État islamique, qu'on appelle en anglais ISCAP. Et ils ne sont pas que des Congolais, c'est au moins 6 pays qui se retrouvent. Des Ougandais, dont ils sont originaires, et des Kenyans, des Tanzaniens, des Burundais, des Somaliens, on a même vu des Jordaniens. Alors, le problème de la mutualisation, selon nos analyses, la mutualisation doit prendre fin. Pourquoi ? Parce que c'est une guerre asymétrique, elle n'est pas conventionnelle, l'ennemi ne porte pas l'uniforme militaire, et l'ennemi se confond dans la population, et il peut poser des embuscades contre la population. L'ennemi n'est pas venu combattre les forces armées loyalistes. Donc il faut renforcer les renseignements, et il faut que chaque pays, puisque c'est au moins 6 nationalités, que chaque pays puisse renforcer le contrôle au niveau des frontières pour éviter des recrutements. Aujourd'hui, chaque jour qui passe, il y a des éléments qui viennent et qui essaient de gonfler le MTM. Donc, MTM, c'est l'abréviation qui signifie Madina Attawed Wal Mujahideen, c'est-à-dire les Mujahideens ou les combattants de la cité sainte de Madina. Donc, nous disons que les opérations conjointes doivent prendre fin, parce que c'est une guerre asymétrique et nous avons l'expérience des Américains qui ont échoué 20 ans en Afghanistan. De deux, dès que la guerre a commencé, les opérations Sokola 1, l'ennemi était dans un triangle bien connu dans le Rwenzori. Vous avez Kamango dans le Watalinga, vous avez Mwalika dans le Bashu et Eringeti Kainama et pratiquement dans Benimbao. Aujourd'hui, avec la mutualisation, l'ennemi draine les forces armées jusqu'à Nituri, territoire de Mambasa, territoire d'Irumu, et même jusque dans le Lubero, au-delà de Butembo. La question elle est simple. Si l'ennemi arrive à Kisangani, est-ce que l'UPDF et les FRDC vont continuer la mutualisation jusqu'à Kisangani, jusqu'à Kinshasa? Donc, il est temps de faire l'évaluation sérieuse et que l'UPDF retourne en Ouganda pour laisser les FRDC mener cette guerre seule en échangeant, en partageant des renseignements.
Oui, lorsque vous dites que la mutualisation doit prendre fin, pour qu'on puisse la remplacer par quoi? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt plaider pour que cette mutualisation puisse s'adapter au mode opératoire de ces EDF, la guérilla?
Mais ça va s'adapter comme... Rappelez-vous que lorsqu'on a lancé les opérations en 2014, les FRDC ont procédé par des bombardements. Elles ont réussi à récupérer presque tous les bastions de l'ennemi, plus de 40 campements de l'ennemi. Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire quelle est la topographie des actions menées par la mutualisation. L'UPDF et les FRDC sont sur la défensive, parce que l'ennemi a la possibilité de choisir la cible, le lieu et le temps. Et l'ennemi attaque des positions là où les FRDC et l'armée ougandaise ne sont pas présentes. Donc, le problème, il est simple, il faut arrêter avec la mutualisation, il faut que l'armée congolaise réadapte sa stratégie selon la stratégie de l'ennemi, c'est-à-dire des petites unités, pas des bombardements, parce que les bombardements permettent à l'ennemi de s'éloigner du front. Et l'ennemi, c'est lui qui gère le front, c'est lui qui nous donne une topographie, une géographie du front. comme aujourd'hui, il est à Irumu, il est à Mambasa. Donc, il faut que les FRDC réadaptent leur stratégie par rapport à la stratégie de l'ennemi, que les FRDC forment des petites unités pour une contre-insurrection ou contre-terrorisme et de bloquer aussi les réseaux dormants et les réseaux actifs. Parce que l'ennemi qui entre, qui vient d'autres pays, comment les FRDC peuvent le gérer si les FRDC n'ont pas réussi à contrôler la population et ceux qui les reçoivent? Donc, l'UPDF ne peut pas faire le travail des FRDC. La population, c'est la population congolaise, c'est pas la population ougandaise. Et l'UPDF a échoué en Ouganda, qui est même l'origine de cet ennemi-là. Donc, il ne peut pas venir gagner au Congo, merci, là où il n'a pas pu réussir en Ouganda.
Merci. Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma, quel est votre point de vue par rapport à cette insécurité persistante dans les Nord Kivu et l'Ituri, insécurité causée par l'activisme des EDF?
Oui, je pense qu'on a vraiment une nécessité de pouvoir reconsidérer cette question, ce contexte de sécurité de la RDC du point de vue de la gouvernance. Il faudrait en faire une priorité nationale, une priorité publique urgente, parce qu'elle ne cesse de durer et les conséquences sur terrain sont vraiment fâcheuses. On peut comprendre que c'est un problème ougando-ougandais, mais qui dure plus de 10 ans sur notre sol. À ce moment, on dénote qu'on a la porosité des frontières, donc on ne contrôle pas les limites congolaises. En tant que pays, cela remet en cause notre souveraineté, et donc il faut prendre des responsabilités. Et j'aimerais que le Parlement congolais puisse se prononcer sur cette coopération ougando-congolaise qui dure pratiquement 3 ans, mais les résultats ne s'y font pas voir. Donc on continue à collaborer alors qu'on n'évolue pas, il n'y a pas de progrès, il y a lieu vraiment de prendre des positions. Et l'autre angle d'analyse, c'est au niveau politique et juridique. Nous sommes sous invention d'une milice ou d'un groupe terroriste, mais on n'a pas de loi en la matière. Notre pays n'a pas de loi antiterroriste, alors que le Parlement est en fonction opérationnelle depuis pratiquement 2 ans. Et donc il est temps de pouvoir mettre sur pied des mécanismes pour réagir, parce qu'il y a d'autres nations qui font face. Et là, je prends l'exemple de la fête de l'Ouest. Et donc nous, on devrait normalement mettre fin à cette coopération ougando-ougandaise, encore que il semble sur le terrain que c'est la partie ougandaise qui est vraiment en avant-plan plutôt que la RDC, alors que c'est nous qui avons besoin de cette paix. C'est la population congolaise qui nécessite d'en pâtir. Tous les jours, on a des massacres à l'armée blanche.
Est-ce que c'est la faute à l'Ouganda ou plutôt à la RDC? Parce que c'est la RDC qui a invité l'Ouganda de venir l'aider, et donc il appartient à la RDC de pouvoir, n'est-ce pas, définir ce que sont ses priorités à son partenaire ougandais.
Effectivement. Donc, on a lu des documents dans la presse que l'Ouganda est allé en Russie se procurer des munitions pour les opérations qui sont menées chez nous. Alors, chez nous, est-ce que nous, on n'a pas de munitions? Parce que eux, ils prennent au sérieux une opération. Alors, nous, en tant que pays, on doit se remettre en cause pour dire s'ils prennent au sérieux cette opération. Nous aussi, on doit démontrer notre force parce qu'on travaille de manière conjointe, mais on remet toujours en cause cette collaboration parce que sur terrain, en Ouganda, aujourd'hui, si Bounagane est tombé, c'est parce que l'Ouganda l'a autorisé.
Merci. Luma Glock Mayou, certains experts estiment que la solution appropriée face au terrorisme, c'est une solution qui tient compte, n'est-ce pas, de tous les aspects du phénomène, donc une solution holistique. Et n'est-ce pas cela qu'il faut pour les cas de la RDC par rapport à cette menace représentée par l'activisme des EDF?
Oui, je pense qu'il faut explorer toutes les pistes et il faut être vraiment gourmand en idées qui pourraient représenter des solutions à long terme. Parce que les solutions militaires, encore une fois, pour moi, ce sont des victoires en guise de feu de paille, parce que si on remporte des victoires, mais qu'on ne sécurise pas les territoires, les populations ne vont pas s'y installer. Et même si elles s'y installent, les drames qu'elles ont vécus vont se reproduire et on restera dans la même détresse sociale. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut aujourd'hui, non seulement accélérer sur tous les tableaux pour trouver les bonnes solutions, mais surtout se dire que une fois que les solutions ont été trouvées, c'est pas la fin. ces solutions doivent être consolidées. Je prends juste l'exemple de l'armée. Quand on envoie les soldats au front, et je ne veux pas être désagréable, mais en leur donnant des moyens qui ne sont pas à la hauteur du chantier auquel ils vont faire face, ce n'est pas sérieux. Les députés qui votent les lois, qui votent les budgets, devraient aujourd'hui se saisir de la question, non seulement pour soulager leurs électeurs, mais également pour soulager les militaires qui ont besoin de moyens conséquents pour lutter contre des forces qui ne sont pas habillées, identifiables comme eux, mais qui ont des moyens colossaux et surtout une capacité de nuisance qui peut leur permettre de faire régner le chaos pendant de nombreuses années. Donc pour moi, il faut vraiment que les politiciens sortent de ce qui est aujourd'hui leur zone de confort pour trouver de véritables solutions à la fois pour l'armée, les forces de défense et de sécurité, mais également pour les populations.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Amani de Mike El Sambo et on se retrouve juste après.
Amani tunaitamani Wakongo mani tulikulaka deni ya nani Hatuwezi fika mashambani maisha yetu yamekuwa tabani Tunauawa tunachinjwa tunabakwa Dunia nzima yanyamaza hawasemi kitu Mambo haya yaishe Amani ya kudumu ikae Twa amuru amani Twa amuru usalama Nyamaze silaha Maisha tupate raha Viongozi wa nchi Malize hizi mavita Mkongo mani nae aishi katika amani Mkongo mani nae afaidike na mali ya inchi yake Tunaomba amani ikae Waasi wote waweke sila Les armes face aux crimes commis au Congo, le monde entier doit se lever, passer par les voies légales pour accéder aux richesses congolaises. Au lieu de créer des groupes armés pour tuer les Congolais, au lieu de tuer le peuple congolais, peuple pacifique et hospitalier. Tunasema amani ya kweli ikae ndani ya Kongo Tunasema amani ya kweli ikae ndani ya Kongo Tunasema amani ya kweli ikae ndani ya Afrika Tunasema amani ikae
C'était Amani de Mike El Sambo, c'est rugbyman congolais évoluant à Goma qui plaide à travers cette chanson pour le rétablissement de la paix dans l'est de la RDC. Je rappelle que nous avons dans cette émission Nikes Kibel-Beloka, il est journaliste et il est éditeur du journal Les Coulisses. Il vient de publier l'ouvrage intitulé « Les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024 ». Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma, membre de la société civile, elle est militante des droits spécifiques des femmes, elle est également coach, écrivaine et coordonnatrice nationale de l'ONG Ouema Asbel, spécialisée dans les questions des gouvernances et des droits humains. Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du club de l'information africaine. Les organisations féminines locales qui se sont investies dans la sensibilisation de la communauté durant la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre se sont dites satisfaites du travail accompli au cours d'une évaluation faite mardi 10 décembre à Beni au Nord Kivu. Cependant, elles ont souligné que le travail à accomplir reste énorme, notamment en ce qui concerne la dénonciation de ces violences par les victimes. Ange Maliro, chargé des communications de l'organisation féminine Tendo Laro, appelle les victimes et leurs proches à briser le silence. Pour cet activiste des droits humains, le manque de dénonciation a engendré des conflits, des tensions dans les quartiers et a exacerbé des problèmes. Madame Chantal Faïda Moulenga-Biuma, vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler de la clôture de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre en RDC, bilan et défi majeur pour la réduction de ces violences. On vous écoute.
Oui, j'aimerais rappeler que cette année 2024, nous avons commémoré le 43e anniversaire de la campagne 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, sous le thème « Riposter et se reconstruire après les violences ». Et un autre thème a été développé dans d'autres pays vers 30 ans de la célébration du plan d'action Beijing, l'agenda égalité des sexes et autonomisation des femmes. C'est dire que c'est parti de 1981 par le Global Women Leadership basé aux États-Unis après maintes réflexions sur la problématique des violences basées sur les genres qui touchent principalement les femmes et à une minorité d'hommes. Il fallait qu'il y ait un temps entre le 25 novembre, qui est la journée des commémorations de l'élimination des violences à l'égard des femmes, jusqu'au 10 décembre, où on célèbre la journée des droits humains. Pendant ces 16 jours, on met beaucoup de sensibilisations sur la prévention des violences basées sur le genre. On engage des plaidoyers pour des réformes publiques, politiques majeures et encourager les bonnes pratiques pour une société à l'abri des violences et des discriminations à l'égard des femmes et des filles. C'est dire qu'aujourd'hui, pour la République démocratique du Congo, on est à 51% des femmes qui constituent la population congolaise selon les données de la Banque mondiale dès 2022, et environ 7% des femmes sont affectées, sont survivantes des violences basées sur le genre. Et au niveau international, on renseigne qu'une femme sur trois est affectée par les questions de violences basées sur le genre. C'est dire que c'est une problématique. C'est même un fléau majeur qui gangrène la société congolaise. Et du point de vue état des lieux, nous avons plusieurs types de violences basées sur le genre. Nous avons les violences physiques, tout ce qui concerne viol, mutilation, bastonnade, mariage précoce, mariage forcé. Nous avons les violences psychologiques avec cette invisibilité des femmes dans les milieux politiques. Pour la RDC, on a 12% des femmes au niveau du Parlement. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui pensent qu'on a progressé parce qu'on a 30% des femmes avec une femme première, une première ministre en RDC. Mais au niveau de la société, il y a encore beaucoup de barrières culturelles. Il y a peu de femmes qui prennent la parole, qui partagent leurs idées pour l'évolution de la nation. Donc les inégalités sont criantes dans notre société. Et quand on parle de violences économiques, nous voyons la privation d'accès aux moyens de subsistance et principalement l'accès à l'éducation. Parce que quand vous avez un niveau d'éducation, d'instruction élevé, vous avez la possibilité d'accéder aux opportunités économiques favorable ou avantageuse pour réaliser vos rêves, alors qu'aujourd'hui en RDC on a seulement 40% des femmes diplômées d'État et 34% des femmes licenciées. Et donc du point de vue accès à l'éducation, on a encore beaucoup de marches à faire pour pouvoir parvenir à une équité, une société juste. Au niveau des violences domestiques, on n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup de femmes qui vivent des situations innommables dans leur milieu privé, que ce soit du côté des partenaires ou même d'autres proches qui sont des sexes masculins, mais elles ne savent pas dénoncer. C'est ainsi qu'on prend, on considère cette période comme étant une période favorable à la sensibilisation, beaucoup plus sur la prévention. Et en termes de pistes de solutions, les organisations féminines et même les chercheurs ont recommandé la mobilisation sociale, que ce ne soit pas une affaire des femmes, mais que ce soit une affaire communautaire, une affaire nationale, et en encourageant la masculinité positive. Vous savez que la RDC a abrité en 2021 les sommets de l'Union africaine sur la masculinité positive. C'est-à-dire qu'on doit rechercher des hommes qui se démarquent comme étant des champions dans les questions de genre. C'est-à-dire c'est un parent qui prend en charge la scolarité de tous les enfants sans discrimination. C'est un époux qui encourage sa femme qui a de l'ambition. C'est un frère qui soutient sa sœur. Et donc ça doit être une affaire de la communauté et pas une affaire des femmes. Parce que très souvent les femmes aussi sont auteurs des violences sans les savoir. Il y a des femmes qui n'encouragent pas les autres femmes, par exemple, à l'entrepreneuriat économique, à la politique, ou même à la recherche. Déjà, on doit sensibiliser également ces femmes-là. L'autre problématique qu'on a mis sur la table, c'est les manques de cadre légal pour suivre ces données statistiques, parce que nous avons la loi sur la parité de 2015, qui recommande à son article 30 la mise sur pied d'un Conseil national de genre et parité. Et donc depuis 2015 jusqu'à ce jour, on n'a pas ces Conseils nationaux de parité. Et donc on n'a pas des données pour suivre l'évolution des questions des genres en République démocratique du Congo. Et la dernière proposition, c'était d'encourager un environnement de paix et de sécurité, parce que parmi les facteurs majeurs qui sont à la base de l'exacerbation des violences sexuelles, c'est aussi la guerre, les contextes sécuritaires qui enveniment la situation. Aujourd'hui, dans les sites des déplacés dans la province du Nord Kivu, on enregistre un taux très élevé de violences sexuelles pour les femmes qui vont à la recherche de bois de chauffage pour leur ménage, parce qu'elles ne vivent pas dans leur milieu habituel. Et également la justice. On doit combattre l'impunité, parce que qui dit réparation pense d'abord justice avant la reconstruction.
Merci. Luma Glosse-Mayou, il est dit que les violences basées sur le genre n'épargnent aucun continent, mais que l'Afrique est parmi les continents où cette question se pose avec acuité. Et à votre avis, que devraient justement faire les États africains pour décourager la commission de ces violences basées sur le genre?
Je pense que l'État en lui-même ne peut pas dans l'absolu régler le problème, parce qu'il est un problème social. Vous avez vu, quand on est entré par exemple dans la période de la Covid où on devait rentrer en confinement, ces violences ont connu une croissance exponentielle. Et donc c'est l'environnement par moment qui pousse les gens à sortir le pire de ce qui constitue leur nature. Et donc c'est au sein des foyers, d'abord de mon point de vue, que cela doit se faire. Ce sont les parents qui doivent éduquer leurs enfants afin qu'ils respectent les autres, qu'ils les respectent quelle que soit la nature de la personne en face, qu'il s'agisse d'une femme, qu'il s'agisse d'un homme, qu'il s'agisse d'une personne âgée, que toutes les différences soient respectées. Pour moi, c'est la base. C'est au niveau de la famille que cela se travaille. La société peut aider également, et la loi vient juste pour parachever un processus qui est parti du foyer et qui peut également être contrôlé par l'État. Mais l'État, en tant que prescripteur, de mon point de vue, n'a que très peu de marge de manœuvre pour faire changer, pour faire bouger les lignes dans ce cas de figure.
Merci Nikèze Kibelbel, on va finir cette émission avec vous. Et pour vous également, qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre de manière efficace ces phénomènes, ces violences basées sur le genre dans notre pays?
Merci beaucoup. Vous allez accepter que je mette un petit rectificatif. En RD Congo, nous avons une coordination nationale de la lutte contre le terrorisme qui est à la présidence, et la CNRF qui est au ministère de finances, qui lutte contre le blanchiment d'argent et de drogue. Donc, ça existe, mais il faut renforcer. Pour revenir à la question de genre, c'est vraiment, Madame Chantal a dépeint une société d'inégalité qui crée autant de blessures. Et comme l'a dit Louis Magloire, il faut d'abord que l'éducation passe par la famille, par le petit noyau, et puis pour que ça puisse s'étendre jusqu'au niveau national. L'État seul ne peut rien. Nous devons changer notre façon de voir, notre regard vis-à-vis d'autrui, que cet autrui soit femme ou homme, changer ce regard et laisser les compétences parler. Je pense que c'est ça ce qui est plus important, et ça va aider à lutter contre toutes les inégalités, notamment les violences faites aux femmes.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma, Monsieur Louis Magloire Kemayou et Monsieur Nikes Kibelbel Oka. Merci aussi à Pierre Diassimoua et Alain Bidoya qui étaient à la technique avec la participation de Christian Lomombe, Didier Dali et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sabou-Jangoué. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 20h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site Radio Okapi. On se sépare avec les langues à musica de Momene Momikengo, chanson sortie en 1985 dans l'orchestre Ok Jazz. On se retrouve le samedi prochain.
Cantando.